10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Speak Uni, ça veut dire spiritualité, culture et harmonie. Bonjour, bienvenue, bon week-end, ravi de vous retrouver. À chaque semaine, nous avons une heure pour déconstruire ensemble les préjugés avec Yacine Imi. Bonjour Yacine.
Bonjour à tous.
Voilà, vous m'avez apporté un nouveau prospectus. Alors, ça se voit pas à la radio. C'est votre centre de formation, hein,
oui,
Yacine.
Vous pourrez l'avoir sur la page Facebook. Donc, c'est le centre de formation, donc l'Institut OSES qui accompagne les ministres du culte, les imams, pour apprendre le français, entre autres. Et du coup, on lance les inscriptions depuis plusieurs semaines maintenant. Vous pouvez regarder sur le site oses.fr. Donc, si vous connaissez des imams ou des présidents de mosquées, vous pouvez les diriger, leur dire qu'il y a une super formation de français pour
vos
imams.
C'est que les présidents, c'est un membre de l'association, il ne peut pas.
C'est pour les imams dans un premier temps.
D'accord. Et vous dites président.
Non, mais le président pourra parler à son imam, bien sûr.
Ah oui, d'accord.
Mais généralement, c'est le président, c'est l'employeur de l'imam.
C'est vrai. Il peut même lui imposer.
Il peut le diriger. Donc, cours de français pour les imams, si vous en avez marre de pas comprendre vos prêches, et si vous voulez aider aussi votre imam, hein, oses.fr.
Bon. Yacine, ça c'est du placement de produit. Bon, vous l'avez entendu, l'imam Abdelali Mamoun est là. Bonjour.
Moi j'en ai parlé bien français, c'était pas de problème à mon frère. Hein. Donc je vais faire la formation comme ça, j'ai parlé.
Toi t'es un produit du terroir, c'est pour ça.
Ah, moi j'ai parlé français, vrai.
un fils de Mantes-la-Jolie.
Mantes-la-Jolie, c'est Marrakech, mon frère.
Bien, notre invité aujourd'hui c'est Didier Lesky, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Voilà, vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est un organisme qui est placé et rattaché au ministère de l'Intérieur.
Absolument.
Voilà, donc vous parlez sous réserve aujourd'hui.
Non, je parle librement, toujours.
Bien, alors on va pouvoir le constater ce matin. La légende dit que vous êtes un des grands spécialistes des questions relatives au culte et à la laïcité et à l'islam de France.
Oui, je crois. Enfin, grand, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été.
En tout cas, que vous avez développé une expertise avisée sur ce métier et vous publiez Misère de l'islam de France aux éditions du CERF. Alors, on va commencer cette émission avec les mots qu'on a appris, Yacine. Le premier mot qu'on a appris en préparant cette émission.
Bon, en faisant nos recherches, donc aujourd'hui, le sujet il est lié à la laïcité, à l'organisation de l'islam de France. D'ailleurs, le sujet de l'émission, on l'a appelé.
Misère de l'islam de France, justement.
Oui, on va en parler. Et un des mots qu'on a appris, c'est le concordat. Peut-être que Monsieur Lesky pourra nous en parler.
Ah oui, le concordat, c'est un concordat, c'est un accord entre un État et le Vatican. La France a donc eu un concordat avec sous Napoléon et qui a organisé les rapports entre l'État et les cultes, en réalité, qui a mis les cultes sous l'autorité de l'État, jusqu'en 1905, en fait. Et en 1905, on a cette loi de séparation qui met un terme à ce régime concordataire, sauf en Alsace-Moselle, où continue à vivre le concordat. Et quand je dis que les cultes étaient sous l'autorité de l'État, en Alsace-Moselle, les rabbins, les prêtres, les pasteurs sont payés sur une ligne budgétaire du ministère de l'Intérieur, et la nomination des ministres du culte dans cette région ne peut se faire qu'en accord direct avec les autorités politiques, donc de l'État français.
De l'État ou de la région ?
De l'État.
Oui, mais d'accord, ok. Mais alors, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'imam qui est intégré dans ce processus du concordat ?
Parce que justement, les imams n'étaient pas là d'une certaine manière au moment où on a mis en place ce concordat, c'est-à-dire cet accord juridique.
Mais c'était un accord qui était réservé à une religion en particulier.
C'est un accord qui est d'abord un accord entre l'État et l'Église catholique, et Napoléon d'autorité a intégré les protestants et le culte israélite dans le régime concordataire.
En 1806, c'est ça, avec le Grand Sanhédrin, c'est ça ?
Avec le Grand Sanhédrin et avec le fait qu'on a décidé à ce moment-là d'une organisation qui était directement sous le contrôle de l'État. Le culte musulman est arrivé bien après. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas été régi par endroit sous une forme autoritaire de l'État, puisque je rappelle que les départements d'Algérie... c'était la France, et que en 1905, alors qu'il est prévu de libérer aussi le culte musulman de l'autorité de l'État, et que la loi de séparation s'applique en Algérie, le législateur va décider de sursoir à l'exécution de la loi de 1905, et en fait, il va tellement sursoir qu'il va léguer en héritage, je dirais, à l'Algérie indépendante, cette tradition coloniale, d'une certaine manière, qui est le fait que l'État contrôle le culte musulman en Algérie.
D'ailleurs,
Tous les pays arabes, il y a l'État qui gère, d'ailleurs, un ministère des Affaires religieuses, il y en a dans tous les pays.
Je le dis parce que c'est un rapport peut-être avec l'intitulé de votre émission, c'est que
le fait de
ne pas l'avoir fait en Algérie a encore des conséquences en France ici.
Alors, deuxième mot que nous avons appris, Yacine.
C'est un mot que l'imam Abdelali a cité, c'est le grand Sanhédrin. Vous pouvez nous en parler.
Alors, le grand Sanhédrin, c'est le fait que Napoléon décide donc d'organiser aussi le culte israélite. Et pour ce faire, il décide de soumettre à une assemblée de notables et de rabbins un questionnaire auquel ils doivent répondre à la fois sur le plan théologique et, je dirais, sur le plan juridique, pour savoir si les juifs considèrent l'ensemble des citoyens français comme leurs frères, sont prêts à défendre la patrie, s'il est licite ou pas d'épouser pour un juif un non-juif. Il y a toute une série de questions comme ça, et c'est en fonction des réponses à ces questions que a été organisée après une assemblée consistoriale, le consistoire, qui existe encore aujourd'hui et qui représente le culte israélien.
Et qui, de cette date-là, intègre la religion juive dans les religions de l'État, c'est-à-dire à l'instar du catholicisme et du protestantisme.
À l'époque, quand on dit intègre, il faut bien comprendre que cette intégration, c'est une mise sous contrôle. Hein. Et du reste, il existait un délit d'exercice d'un culte non reconnu. Et on ne pouvait pas exercer un culte s'il n'était pas intégré dans cette organisation. C'était un délit. Et donc, quand vous dites intégré, il faut bien comprendre que cette intégration n'est pas une liberté.
Une autorisation, d'une certaine manière.
C'est une mise sous tutelle, d'une certaine manière.
D'ailleurs, moi, j'invite nos auditeurs à aller faire des recherches sur les 12 questions que Napoléon a posées à cette assemblée, l'assemblée des notables. Le grand Sanhédrin.
Et alors, comment ça s'écrit, Sanhédrin? Parce que c'est un peu particulier, l'écriture.
Le grand Sanhédrin,
parce que ça se prononce pas de la même manière.
Sanhédrin, S-A-N-H-E, accent aigu, D-R-I-N. Et une des questions qui a été posée, vraiment, c'est des questions assez ciblées. Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français, regardent-ils la France comme leur patrie? Ont-ils l'obligation de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions.
Tu enlèves juif, tu mets musulman, c'est en 2019, ça. Ah non, mais c'est exactement ce que
c'est. Une question fermée, en plus. Hein.
Oui, c'est pour ça que
tu enlèves le juif, tu mets le musulman à la place, c'est la réalité des musulmans aujourd'hui.
C'est pour ça que je faisais ce parallèle dans mon livre, L'Empire de l'Islam de France, parce que justement, au moment où Napoléon fait ça, il y a une vague d'antisémitisme, ce qui est importante. Les préjugés existent, dans l'Est, etc. Et en particulier dans l'Est de la France, où il y a une communauté juive très importante. Et c'est aussi à travers cet exercice qui pouvait apparaître pour les notables juifs comme étant peut-être un peu dur, peut-être même humiliant, qu'on a fait baisser à un moment donné mais pas pour toujours, du reste, malheureusement, les préjugés antisémites.
Je pense qu'il est important aussi de préciser que pourquoi, après 1905...
Parce qu'il y a une question sur l'usure, par exemple, qui était un des thèmes antisémites très importants.
Voilà. Oui, mais parce qu'il y avait une grande pratique de l'usure chez les Juifs.
L'usure financière,
apparemment, l'Alsace-Moselle avait émis comme condition d'intégrer, justement, d'après ce que j'avais lu, maintenant c'est à vérifier, je vous pose la question, monsieur Lecci. Est-ce qu'il paraît, pour obtenir l'autonomie, l'intégration de l'Alsace-Moselle dans le territoire français, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, l'Alsace-Moselle intègre.
Après la première.
Oui, après la première, excusez-moi. Après 1918, l'Alsace-Moselle intègre le territoire français à condition qu'il n'adhère pas à la loi 1905. Et donc, qu'il reste sur la loi du Concordat.
C'est pas exactement cela. On recouvre les territoires qui étaient préalablement occupés par l'Allemagne depuis 1870, depuis la défaite de 1870.
Là où la France avait perdu l'Alsace-Moselle.
Voilà, et la question qui est posée au gouvernement, c'est de savoir s'il ouvre de nouveau un affrontement avec l'Église catholique. Ce n'est pas la volonté manifestement des Alsaciens mosellans. Et surtout, le gouvernement, la majorité de l'époque, n'estime pas cela souhaitable, d'autant plus que pendant la guerre de 14-18, les catholiques se sont comportés correctement dans la défense de la patrie. Et donc, ça serait réouvrir un front politique avec eux au moment où on est dans un sentiment d'unité nationale, et donc on ne souhaite pas de nouveau le fracturer.
Est-ce qu'on a appris un autre mot, Yacine ? Bien. Alors, on va parler de la laïcité ce soir, hein, puisque vous savez que le débat de la laïcité est relancé après qu'un élu du Rassemblement National au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté a bruyamment demandé à une femme voilée accompagnant des écoliers, dont son fils, de quitter l'hémicycle, et avant de publier la vidéo sur les réseaux sociaux. La laïcité est invoquée, comme à chaque fois, et vous, vous dites que finalement la laïcité manque de définition juridique.
Alors, oui, ce que je dis, c'est que c'est un mot valise qu'on a du mal à s'accorder sur une définition, puisqu'il y a des personnes qui parlent de la laïcité ouverte, d'autres de laïcité fermée, sans qu'on se comprenne très bien qui serait le juge de tout ça. Mais, parce que je crois que la laïcité, c'est d'abord une organisation juridique, non, c'est un cadre juridique, mais c'est surtout, historiquement, la construction d'un rapport entre la société et l'Église catholique qui vise à faire en sorte que l'Église catholique recule dans ses prétentions à vouloir organiser la vie des hommes, à marquer de son empreinte l'espace social. Voilà. Et toutes les lois laïques ont visé d'abord à faire reculer la prétention de l'Église catholique.
Donc ceux qui prônent cette laïcité fermée utilisent l'argument historique de la laïcité, alors que ceux qui ont une laïcité ouverte argumentent les textes de la loi 1905 et la stricte application de ces articles de loi.
Alors justement,
qui, eux, sont beaucoup plus ouverts.
Sur la loi de 1905, donc loi de séparation entre les Églises et l'État, vous dites que déjà le terme laïcité, il n'est pas dans cette loi-là.
Non, le terme laïcité n'est pas dans la loi.
Il n'y est pas. Non, contrairement à ce qu'on pense.
Il n'y est pas. Et du reste, on entend souvent des responsables politiques ou autres qui disent « Ah ben, la loi
de
la laïcité, c'est la loi
de
1905 ». En réalité, elle n'y est pas. C'est un corpus juridique qui se construit tout au long du 19e siècle, et puis après qui a été agrémenté par la jurisprudence du Conseil d'État, le Conseil d'État étant le véritable gardien de l'esprit juridique laïque, mais qui peut avoir évolué dans le temps, hein, avec des modifications successives de la loi de 1905, puisque la loi de 1905, en réalité, elle a été touchée plusieurs fois, et même sur des éléments très substantiels. Je pense par exemple à l'article 19 de la loi de 1905, que les musulmans connaissent peu, les responsables musulmans connaissent peu, mais qui est important, qui est le fait que ne doivent pas être considérées comme des subventions au culte les sommes allouées à l'entretien des lieux de culte. Voilà, et qui
s'appliquent. Des infrastructures, quoi.
Qui s'appliquent.
Pas l'activité, mais l'infrastructure peut être faire l'objet d'un soutien et d'un financement d'État.
Ça veut dire, par exemple, s'il y a un problème, je dirais, d'entretien du bâtiment, la somme allouée ne doit pas être considérée comme une subvention au culte, que le bâtiment est construit avant ou après 1905. C'est une question très importante. Mais vous avez d'autres dispositions qui datent d'après 1905. Qui ont été faites d'abord pour l'Église catholique. Je pense à ce qu'on appelle les baux emphytéotiques donnés pour la construction d'un lieu de culte par une collectivité locale, et qui est un instrument juridique très largement utilisé par
aujourd'hui.
Il est de quelle année cet article ?
Alors, on dit souvent que c'est le résultat d'un accord entre Léon Blum et le cardinal Verdier, donc au milieu des années 30. En fait, oui, ça date de cette période-là. C'est-à-dire le milieu des années 30, au moment où l'Église catholique a besoin de construire des lieux de culte pour accompagner l'évolution démographique de la France, c'est-à-dire le fait que les gens quittent les campagnes pour aller dans les villes.
Misère de l'islam de France, Didier Lesky est l'invité de Speak Uni, aujourd'hui jusqu'à 11h.
Speak Uni revient dans un instant. 10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Speak Uni, on parle ensemble jusqu'à 11h sur Beurre FM. Je rappelle que Speak Uni, ça veut dire spiritualité, culture et harmonie, avec Yacine Ilmi qui est avec nous, l'imam Abdelali Mamoun, et puis notre invité aujourd'hui qui est Didier Leski, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Je rappelle que vous avez publié récemment Misère, alors avec au pluriel, hein, de l'islam, oui, de France, aux éditions du CERF, que l'imam Abdelali connaît bien.
C'est surtout, il faut préciser qu'il a été directeur du bureau des cultes au ministère de l'Intérieur.
Pendant
4 ans.
Voilà, pendant 4 ans. Et notamment au moment de la création de la Comore, qui va faire naître plus tard le CFCM.
Non, en fait, ça fait très longtemps que j'avais commencé avant, puisque j'étais au cabinet de Jean-Pierre Chevènement en 1997. Et c'est Jean-Pierre Chevènement qui est un des concepteurs du Conseil français du culte musulman. Oui, et c'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait accoucher d'une certaine manière. Mais la conception
avec
initiale,
un forceps,
je dirais même. La conception initiale, c'était l'idée qu'il fallait une institution représentative de l'islam et qui puisse, mais je crois que c'est ça qu'on n'a pas réussi à faire, représenter la dignité des fidèles dans leur foi.
Vous étiez avec Alain Billon, c'est ça ?
Alain Billon, Didier Mochan, voilà. Ouais. Après Bernard Godard.
Bernard Godard, effectivement.
Les auditeurs connaissent bien.
Tout à fait.
Oui. Bien. En tout cas, le CFCM existe aujourd'hui. On en parlera peut-être tout à l'heure. On était sur la définition de la laïcité qui, comme à chaque fois, est convoquée, qu'il se passe quelque chose. Donc, au nom de la laïcité bien pensante, tout le monde s'érige. Yacine.
J'avais une petite citation.
Comme s'il vous plaît.
C'est une citation d'un chanteur que vous connaissez qui s'appelle Abdelmalik et qui nous parle de laïcité. J'ai trouvé ça assez intéressant. Il dit « La laïcité signifie que dans la société, nous sommes définis par notre citoyenneté et en aucun cas par notre religion. » Voilà, c'est un
bien
petit mot.
C'est bon, une très bonne définition.
Abdelmalik, lui aussi, il a des mots précis. Alors vous parliez du mot laïcité qui est mal défini aujourd'hui et en tout cas mal défini juridiquement.
En tout cas, il n'y a pas un consensus sur son contenu. Voilà.
Mais parce qu'il n'est pas défini juridiquement. S'il était défini juridiquement,
Se
contenterait de...
Disons, le cadre laïque, il peut être... Il a
à géométrie variable.
Plusieurs dimensions en termes juridiques, en fonction des secteurs très précis d'activité.
Vous appelez ça un mot élastique.
Oui.
Bien.
Un mot valise, un peu.
Ouais, un mot valise. Comme le mot islam. Alors, par exemple, est-ce que vous pouvez, vous, définir le mot islam ou quel... comment le définissez-vous ?
Ah ben, je pense que... Je le définis avec cette idée que c'est la religion d'un livre spécifique qui est le Coran. Voilà. Et au-delà de ça, voilà, c'est je connais des musulmans qui suivent ce qu'ils considèrent comme être les enseignements de ce livre.
Alors justement, qui sont les musulmans ?
Alors, je pense qu'on ne peut définir les musulmans que de la manière suivante, c'est ceux qui croient. Voilà. Pour moi, ou sinon, il y a des Français, des Algériens, des Marocains, des Turcs, tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il faut sortir d'une définition qui essentialise toute personne qui viendrait de l'autre côté de la Méditerranée comme étant un musulman. Je crois que c'est justement pour rejoindre ce que disait Abdelmalik. Définir les personnes par une religion, eh bien, c'est les faire sortir d'une forme de citoyenneté.
Justement, parce qu'il y a un certain nombre de musulmans, on va dire de personnes en France qui sont des laïcs, voire même des athées, qui se revendiquent de cette culture musulmane, et qui disent voilà, nous on n'est pas convertis, on n'est pas, je veux dire, on ne croit pas en Dieu, par exemple, mais nous sommes de culture musulmane et nous revendiquons cette culture et nous nous battons pour qu'on puisse respecter cette culture et cette diversité culturelle que nous apportons à la société française. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'il n'y a pas en même temps...
Non, mais bien sûr qu'ils peuvent, tout à fait se dire culturellement musulmans. Ils ont tout à fait le droit. Mais par exemple, je trouverais très regrettable qu'on explique que la France, c'est le pays des catholiques.
Voilà.
Donc c'est, la France, c'est le pays des citoyens français, quelle que soit leur religion. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention. Et je dirais que c'est très important parce qu'il y a des pays de l'autre côté de la Méditerranée où on n'avait pas superposé une identité laïque avec une religion, l'islam. Je pense par exemple à un pays comme le Liban. Voilà, on ne peut pas dire qu'être Libanais, c'est être musulman. Être Libanais, ça peut être musulman.
Maronite.
Comme ça peut être chrétien, comme ça peut être druze, etc. Mmh. Et donc, je pense qu'il est important de ne pas substituer cette identité qui a quand même un rapport avec le religieux, avec une citoyenneté qui, elle, est une définition laïque des personnes.
Ouais, mais la question, c'est de savoir à quoi ça sert de clarifier le mot et finalement d'être plus précis sur la définition.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu très important en termes même d'intégration des personnes et de refus d'affrontement à partir du religieux. Et j'ajoute même qu'il y a eu un glissement très important dans le vocabulaire général depuis 30 ou 40 ans, qui est d'avoir, d'une certaine manière, remplacé le travailleur immigré par musulman. Parce que les travailleurs qui sont venus ici, eh bien, ils avaient une utilité sociale. Si on les définit uniquement comme musulmans, on écarte l'idée de leur utilité sociale. Et je pense que c'est très important de ne pas céder à cela. Et pareil pour les jeunes. Hein, un jeune issu de l'immigration, c'est un Français. Voilà, et dire ce sont des jeunes musulmans, c'est reprendre pour tous une définition que certains sont en droit d'avoir, mais dès lors qu'ils la mettent en rapport avec leurs convictions religieuses. Et j'ajoute en plus que ce qu'il y a de difficile pour les musulmans en France, c'est-à-dire pour ceux qui ont le droit et qui ont tout à fait, qui sont tout à fait légitimes dans leur foi, il y a quelque chose qui est très difficile pour eux, c'est qu'il y a des tas de personnes qui parlent et qui se revendiquent comme musulmans alors qu'ils ne vont jamais à la mosquée. Et je crois que c'est un des problèmes de l'islam de France.
D'accord, alors, bah, oui, Yacine.
Moi, j'avais une petite question, très simple.
Mais j'espère qu'on reste là-dessus quand même.
Oui, oui, c'est sur la situation des musulmans. Je ne veux pas faire un comparatif, mais est-ce que vous pensez que la situation des juifs du 19e siècle a des similitudes avec celle que les musulmans vivent aujourd'hui?
Pas du tout. Voilà. Voilà, pas du tout, parce que nous ne sommes pas dans un système d'exclusion juridique tel qu'il a été progressivement construit et qui a perduré même dans une partie du XXe siècle. Je rappelle par exemple que dans des pays comme l'Allemagne, les juifs n'ont pas eu le droit de vote jusqu'en 1920.
Même sur les questions de stigmatisation?
Même sur les questions de stigmatisation. Je reprends toujours cet exemple malheureux parce qu'il accrédite une identité, il essentialise un peu toute personne issue du Maghreb comme musulman. Enfin, on n'imagine pas dans les années 30 un gouvernement dire « je vais nommer un préfet juif ». Alors que Nicolas Sarkozy
a nommé un préfet musulman.
A nommé un préfet musulman, ce qui était, sur le plan sémantique, une erreur.
Alors moi j'ai une question assez lourde. C'est quoi le problème des musulmans en France? Pourquoi en France il y a tous ces problèmes-là? Pourquoi ailleurs on n'entend pas parler de tous ces sujets qui font polémique en France et qui créent un climat anxiogène, frustrant?
C'est une question ouverte, ça c'est...
Voilà. Alors, je ne sais pas...
Non, mais je veux l'analyse d'un expert.
Je ne sais pas quel est l'ailleurs où il n'y a pas des problèmes. Je crois que la France est un pays... paradoxalement.
Je dirais même que la France est porteuse de cette haine dans ces pays-là. Ah non, en Belgique, on a parlé du problème du voile, etc., que seulement juste après que ça s'est passé en France.
Non,
En tout cas, c'est l'impression. Moi, ce que je vous dis, c'est l'impression de beaucoup de musulmans.
Je pense que c'est une fausse impression. Vous allez des pays comme l'Autriche, l'Italie, bien sûr, enfin bon. Je crois que la situation des musulmans, c'est-à-dire des croyants en France, elle est tout à fait paradoxale. Parce que depuis... la fin des années 70, la situation concrète des fidèles musulmans n'a pas cessé de s'améliorer. Elle est en amélioration constante. Elle l'est de manière très, très, très concrète. C'est la construction des lieux de culte. J'en parlais tout à l'heure, mais on a une multiplication de la construction du lieu de culte avec très souvent des fonds publics. Des fonds publics avec le terrain mis à disposition, la partie non cultuelle, comme on dit, c'est-à-dire le logement de l'imam, la salle d'ablution qui est financée par des collectivités locales, le halal. à la fin des années 70, le problème de ceux qui voulaient manger en fonction de leur conviction religieuse, c'est qu'ils ne trouvaient pas de rayons halal partout. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle grande surface, vous avez des rayons halal partout.
Mais ce n'est pas l'État qui est derrière ça, c'est parce que c'est on fait des affaires.
C'est à la fois pas l'État et l'État. Et d'une certaine manière, si on discute du halal, d'une certaine manière, l'État a une certaine responsabilité dans le fait qu'il a donné à un certain nombre de personnes le droit, je dirais, de désigner des sacrificateurs, tout en laissant le marché complètement libre. Hein. Et un des problèmes d'une partie des fidèles musulmans, c'est le fait que ce marché halal ne sert pas, comme par exemple la cacheroute peut servir, au financement du culte, mais donne très souvent le sentiment d'enrichir des personnes privées, ce qui peut dégoûter justement des jeunes croyants la représentation que
alors
donne
comment on peut faire pour que le halal aujourd'hui, qui représente quand même une manne énorme, hein, on sait que ça se compte en plusieurs centaines de millions d'euros, peut-être même en milliards, selon ce que l'on évoque comme étant aussi ce qui est vendu à l'étranger, hein, de ce qui est exporté.
En France, on estime que le marché du halal, c'est 1 milliard d'euros, en gros.
Voilà. Mais imaginez bien ce milliard s'il était utilisé pour les musulmans. Par exemple, pour que le CFCM ait ses infrastructures, son personnel, ses outils nécessaires à son fonctionnement, on ne serait pas là aujourd'hui à avoir local et qui tous les ans fait l'objet litige auprès de la mairie de Paris.
Je vais revenir. Je dirais comme dernier exemple sur la question des discriminations,
oui.
C'est le fait que la France est le seul pays d'Europe occidentale et même du monde qui a par exemple une aumônerie militaire où les aumôniers musulmans sont sous l'autorité d'un aumônier en chef musulman. Il n'y a aucun autre pays qui fait ça.
Mais sur le halal, Abdelkader Harbi en l'occurrence.
Oui, Abdelkader Harbi. Mais en l'occurrence sur le halal, je pense que c'est un sujet quand même et qui est très difficile pour l'État parce qu'il y a le principe de séparation des églises et de l'État et donc le fait que l'État ne peut pas directement intervenir dans l'organisation du culte. Il y a un problème sur ce marché halal de deux ordres. Le premier, c'est la qualité des produits. Il y a des organismes qui contrôlent. Et puis le deuxième, c'est les marges dégagées en termes de profit. Est-ce qu'elles sont réutilisées ou pas?
C'est pas le sujet ce soir. Moi, je vais revenir sur la question de l'imam Abdelali, que je vais vous poser différemment. Pourquoi le débat religieux aujourd'hui, et surtout qui concerne l'islam, occupe-t-elle cette place aujourd'hui?
Alors,
et fait-elle ce bruit?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un problème qui est interne à la France, et puis il y a un problème qui est plus large, et qui est un problème lié à l'islam, sunnite ou chiite, du reste.
On n'a pas trop de chiites en France, on n'a presque pas.
Le problème interne à la France, c'est le fait que des courants, et en particulier d'extrême droite, qui historiquement n'ont jamais été des courants laïcs, hein, mais plutôt des courants catholiques, au sens de revenir à la césure organisée par la Révolution française, utilisent la question laïque pour stigmatiser les musulmans. Et on l'a vu au Conseil régional de Bourgogne, c'est exactement cela, et c'est un courant qui est malheureusement très fort ou trop fort dans la société française et qui réactive tout le temps à partir de la laïcité une forme de stigmatisation de l'islam et des musulmans pour en réalité essayer de les expulser de l'espace national. Ça, c'est le premier problème. Mais pourquoi ce qu'ils font acquiert autant de force?
C'est la caisse de résonance, moi, qui m'intéresse.
Voilà. Parce que il y a un problème profond avec l'islam mondial, c'est le fait que ce qui domine en son sein comme dynamique est une dynamique extrêmement mortifère, qui ne pense pas le rapport aux autres, la différence avec les autres, et ce qu'on connaît aujourd'hui des pays musulmans, et en particulier enfin, pour ceux qu'on connaît intimement, même ceux de l'autre côté de la Méditerranée, ben c'est des pays qui ont vu se rétracter bien les différences, se mettre en cause la liberté de conscience et la liberté religieuse, dans des proportions qui sont de plus en plus tragiques, par endroits, violentes. Voilà. Et ça fait peur. Et c'est sur cette peur que jouent les courants d'extrême droite en France. Parce que c'est une peur réelle et on le voit bien. Et en plus, on est dans une période où l'information circule et circule très très vite, avec des images extrêmement violentes. Moi, quand j'étais jeune, ce qui faisait peur et ce qui faisait débat, c'était pas l'islam, hein, c'était le fait qu'on bombardait au napalm les Vietnamiens. Bon, voilà. Aujourd'hui, ce qui fait peur à la télévision, c'est quand même l'affrontement tragique entre chiites et sunnites qui s'égorgent.
C'est Daesh surtout aussi. Al-Qaïda, Al-Qaïda.
Mais il y a aussi les pompiers qui manifestent, la police qui manifeste, la réforme des retraites. Et ça aussi, ça fait peur aux gens. Enfin, non seulement ça leur fait peur, en plus ça les concerne.
Pas de la même manière. Pas de la même manière, parce que malheureusement, aux marges de ces croyances, il peut y avoir des personnes qui passent à l'acte. Et qui passent à l'acte au sens où ils peuvent tuer des gens. Et ça, ça fait peur.
Bien, Spicuni, c'est jusqu'à 11h. Yacine, vous avez préparé votre quiz ?
Yes.
J'espère que Didier Leski est pris, est prêt, parce que tout à l'heure, il y a le grand quiz des religions. Je vous rappelle qu'il y a une poupée Shifa, et que je sache, Didier Leski, qui vient pour la première fois, n'a pas encore gagné de poupée Shifa, donc je vois qu'il est très impatient.
Maintenant, il a fait carton plein, là.
Ah non, bah oui, non, attention, on va voir. Mais bon, on va peut-être en rupture au stock. Allez, on revient dans un instant.
Je sais pas si je serai à la hauteur.
Speak Uni revient dans un instant. 10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Misère de l'islam de France, c'est le titre du livre de notre invité aujourd'hui qui s'appelle Didier Leski, que vous avez publié aux éditions du CERF. L'imam Abdelali Mamoun est avec nous et Yacine Ilmi est également avec nous. Je rappelle que vous êtes Didier Leski, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, organisme qui est placé, rattaché au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous envoyez par exemple parfois des notes au ministre, au cabinet du ministre, pour lui dire que là, peut-être le ministre, il a dit des bêtises? Je ne sais pas s'il y a des notes qui circulent.
Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai essayé de le dire le mieux possible. Vous voyez, j'ai essayé de dire que, bon, quand le ministre de l'Intérieur s'exprime, il y a des ça réagit, quoi.
Ça jase.
C'est le cas de le dire.
Écoutez,
Je vous ai demandé au début d'émission si vous aviez une liberté de parole. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question.
Notamment les signes pour signaler. C'est de l'amateurisme. Là, on n'est plus dans la lutte contre le terrorisme. On est dans le véritable amateurisme. Pour détecter un terroriste, on va regarder s'il a le tampon sur le front. Mais c'est complètement absurde. Et que s'il pratique une pratique exaspérante pendant le ramadan, c'est ça qui nous permet de détecter quelqu'un qui veut se radicaliser? Mais c'est ou un gamin qui va pas prendre la main d'une fille et tous les garçons et
je pense que il y a deux choses. D'abord, il faut pas oublier le traumatisme qu'est pour le ministère de l'Intérieur.
Lui aussi, il a été traumatisé. Hein, c'est peut-être pour ça.
Mais c'est un traumatisme extrêmement grave ce qui s'est passé est tragique. C'est-à-dire quand même.
Là, on parle de la préfecture.
De la préfecture de police, c'est-à-dire quelqu'un qui est votre collègue de travail pendant des années. Que vous voyez, il y a des signes qui sont indéniables de quelque chose qui se transforme dans son état psychique, mental, philosophique, et vous ne le voyez pas de manière suffisamment acérée, et puis un jour, il prend un couteau et il tue son voisin de bureau, enfin la personne qui travaillait en face de lui pendant des années. Donc c'est un traumatisme. Et donc là, il y a une défaillance au sein du ministère de l'Intérieur, en tout cas, il y a quelque chose qui est vécu comme une défaillance, qui est de ne pas avoir
déjà la méthode du profilage du terroriste. Aujourd'hui, on n'a pas de profil d'un terroriste, puisqu'aujourd'hui, on a une diversité de genres, d'individus qui sont devenus des terroristes puissance et qui ont agi de la sorte, et qui sont dans la diversité. On a des Africains, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a de toutes les catégories. C'est compliqué.
On est dans la psychologie humaine, et dans la patte humaine, et c'est toujours compliqué. Mais j'attire votre attention sur autre chose, c'est que moi j'ai été pendant plusieurs années en poste en Seine-Saint-Denis, où il y a eu malheureusement beaucoup de jeunes qui sont partis, et le reproche que nous faisaient les familles, c'est de ne pas avoir été suffisamment attentif aux signes, et pour ne pas les avoir empêchés de partir. Donc c'est, je pense que la question des signes, il faut la voir, et en particulier chez les jeunes aussi, comme une protection pour eux, hein, et à la fois pour nous tous, mais aussi pour eux, parce que c'est des jeunes ou des moins jeunes, c'est des personnes qui quand même globalement
comment une pratique exaspérante
vont à la mort. C'est quand
mais,
même
d'accord,
ça,
mais quel rapport entre le radicalisme? Moi, je pense que quelqu'un de radicalisé, il va être dans une démarche de secret, de repli sur lui-même, ou est-ce qu'il va essayer de tenter de cacher le plus possible son extrémisme, son radicalisme, alors qu'une personne qui va aller à la mosquée, qui va pratiquer, qui va porter une djellaba, etc., on ne connaît pas aujourd'hui de personnes qui se sont radicalisées après avoir eu ces signaux sur eux-mêmes. Je trouve ça un peu...
Il y a beaucoup de profils, il y a des gens qui, dont la radicalisation a pu être vue dans un lieu de culte, et puis il y en a d'autres qui peuvent l'avoir cachée, mais faites attention sur le terme de cacher, parce qu'il y a beaucoup de discours sur la taqiya, etc. Je pense que c'est des discours particulièrement angoissants et qui peuvent susciter des réactions très violentes dans l'espace public, où on peut, et parce que ça peut tout justifier. C'est-à-dire que si on commence à dire que le terroriste est forcément celui qui cache et il peut aller boire de l'alcool, à ce moment-là, ça peut entraîner des choses très...
Et il va même vendre de la drogue,
oui, mais
pour financer son terrorisme, le sait.
Il faut faire très attention, parce que...
Il y a différents profils, en réalité.
Je pense que c'est un discours qui est très angoissant et même très dangereux, et je ne crois pas à cette affaire généralisée de taqiya, etc. Mais il y a divers profils de radicalisation, il y a des études de sociologues qui sont assez poussées là-dessus.
Et vous pensez que c'était pertinent ce qu'a évoqué le ministre, comme étant des signaux de radicalisation, les exemples qu'il a donnés?
Je pense que ça peut faire partie des signaux. Après, je pense que ces signaux ne peuvent pas être utilisés dans n'importe quel espace et de n'importe quelle manière, voilà.
Alors, où en est-on de l'organisation et de la réforme de l'islam de France, finalement, qui était plutôt bien engagée et dont on n'entend plus parler aujourd'hui?
Je pense qu'elle est dans une situation de régression.
Est-ce qu'elle est dans l'impasse dont on nous parle aujourd'hui?
Écoutez, je pense, et c'est ce que j'ai essayé de dire en particulier dans mon livre, et peut-être que moi, dans ma pratique en tant que chef du bureau central des cultes ou d'autres, j'ai aussi sans doute une part de responsabilité. Un des soucis, je dirais, ou un des effets de cette régression, c'est le fait que depuis 20 ans, on a affaire aux mêmes représentants autoproclamés ou représentant quelque chose, et en particulier des courants qui sont soutenus par des États ou qui sont le reflet d'États ici.
Donc l'islam consulaire.
Qui bloque toute idée d'une représentation et qui, justement, refuse de prendre en charge les problèmes vraiment des fidèles, qui sont, à mon avis, des problèmes à la fois matériels, mais aussi des problèmes spirituels.
D'accord. Mais est-ce que dans ces cas-là, puisque la situation, elle est actée, c'est de ne pas parler avec les nouvelles générations, avec les jeunes?
Mais les jeunes... il en existe, et nous en avons un ici, si je veux dire, mais avec ce que vous faites.
Alors le jeune, pour tout le monde, c'est Yacine, hein, c'est le plus jeune.
Je pense que ce qu'il fait avec le centre de formation destiné au cadre religieux, les cours de français, les discussions et qu'il a fait en Seine-Saint-Denis, que j'ai regardé de près, puisque j'étais en poste en Seine-Saint-Denis, me semble une bonne chose. La difficulté pour les jeunes, c'est de trouver la force suffisante pour s'organiser et d'une certaine manière arriver à mettre de côté les vieilles barbes, puisque mais c'est-à-dire tous ces gens qui se sont assis sur l'islam de France en donnant le sentiment, en particulier aux jeunes, qu'ils ne vivent pas pour l'islam, mais qu'ils vivent de l'islam. Et ça, c'est quand même le problème.
Ils ont pris le modèle des politiques d'une certaine génération aussi, où les gens faisaient de la politique pendant 2 ou 3 décennies en France.
Mais pas simplement en France. Je pense que malheureusement, ils ont pris aussi le modèle de certains pays d'origine, hein, où des gens se sont assis sur le pouvoir et ont du mal à le quitter. Et ils sont aussi le reflet de leur culture d'origine au mauvais sens du terme.
Mais vous parlez de représentativité, parce que effectivement, pour l'esprit du Français qui voit les choses de l'extérieur, ce qui est important, c'est d'avoir un représentant pour rassurer l'opinion publique.
Je termine
ma question. Mais est-ce que le vrai problème n'est-il pas justement l'organisation de ce culte qui aujourd'hui provoque, parce qu'il y a une non-organisation, un désordre qui règne, un chaos qui règne, laisse un boulevard énorme à tous ces radicaux, tous ces prédateurs radicalisés qui, donc, ne voyant pas ce travail fait par ceux qui devraient le faire, récupèrent justement cette jeunesse, on va dire, assoiffée, avide de spiritualité.
C'est la limite de l'État et c'est la limite pour ceux qui sont extérieurs à la révélation, qui ne peuvent pas agir à la place de ceux qui sont
extérieurs. Mais ils peuvent décider, ils décident par contre. Ils peuvent décider qui doit organiser, qui veut, comment organiser, comment financer l'organisation. Tout cela, c'est l'État qui peut le faire,
non,
c'est pas nous.
Non, l'État ne peut pas le faire, c'est ça la difficulté.
Elle peut décider, je veux dire, elle peut décider qu'on le fasse. Et elle dit, voilà, vous vous asseyez, voilà, on va faire maintenant comme ça. On va enlever les agréments du halal à telle et telle mosquée, on va les donner à une instance maintenant qui va enfin mettre l'argent à la disposition du culte, va financer la formation des imams, le salariat des imams, le suivi des imams, le contrôle des imams, de manière à ce que dans toutes les mosquées, il n'y ait pas de proie qui s'échappe du filet de l'imam et qu'il assume parfaitement toutes ses ouailles.
La difficulté pour l'islam de France, enfin l'islam en France, pour les musulmans, disons, la difficulté pour les musulmans, c'est que on voit bien que l'ouma n'existe pas et que les dissensions internes en l'emportent toujours par rapport à ce que on appelle, en droit commercial, l'affectio societatis, mais qui sera l'affectio societatis religieuse, c'est-à-dire la volonté d'agir ensemble pour le bien commun des fidèles.
Mais est-ce que c'est pas l'État en convoquant autour de la table les fédérations justement ethniques? Marocaine, algérienne, turque, africaine, Fayaka, du type turc, etc. Est-ce que c'est pas l'État qui a commis cette erreur au lieu de convoquer les mosquées et les élus régionaux qui se réuniraient après à ce moment-là au ministère de l'Intérieur, après s'être réunis au niveau des régions, au niveau départementaux, des départements, pour justement mettre en place non pas une représentativité, parce que c'est ça qui focalise aujourd'hui l'esprit des Français. Ce n'est pas le problème de l'islam de France. L'islam de France a besoin d'une organisation, pas d'une représentativité.
Non mais l'idée de faire à partir des départements, on peut le faire, mais il faut faire attention sur les faits, ce que vous dites comme critique des fédérations et des pays d'origine. La difficulté, c'est que une partie des fidèles, et même quand les personnes sont nées ici, elles peuvent être tout à fait attachées au pays d'origine. Hein. Les jeunes français dont les parents sont turcs, je peux vous assurer que leur rapport à la Turquie, très souvent, et en particulier quand ils sont religieux, est particulièrement fort. Et vous ne pourrez pas simplement dire « c'est parce que je refuse de convoquer la Diyanet ou le CCMTF » que vous arriverez à avoir l'émergence d'un islam de musulmans d'origine turque. Mais les mosquées, elles ne sont pas autant que ça indépendantes.
Bon, voilà. Mais alors, c'est ça la difficulté. On a vu une accélération dans cette organisation. Subitement, on voit un ralentissement. Là, aujourd'hui, on en est où ?
Alors, aujourd'hui, on en est où ? On en est dans quelque chose qui m'inquiète un peu, parce que, théoriquement, le Conseil français du culte musulman doit renouveler ses instances au mois de novembre.
Mais ça a un sens, ça ?
Ça a quand même un sens, parce que c'est quelque chose qui malgré tout existe, et il vaut mieux que quelque chose qui existe un peu que rien du tout, c'est-à-dire qu'on arrive à une situation à celle qui était avant.
Basé sur la surface des mosquées pour
oui
définir.
Mais ça je peux expliquer pourquoi, et je pense que c'était la seule méthode.
Non, il y a le quiz, ça c'est long, ouais. Mais on va pas refaire l'histoire sur
mais
ça, parce que c'est
ce que je vois, c'est une différence qui se fait entre générations et un fossé grandissant entre générations, avec d'autres tentatives qui existent, qui représentent soit des personnes qui sont croyantes et qui sont dans des formes de réussite sociale ou d'ascension sociale. Je pense à ce qui est tenté par Hakim El Karoui, qui avec son association...
L'AMIF, l'Association musulmane pour un islam de France.
Son association musulmane pour un islam de France. Et puis il y a une autre autour de Marwan Mohamed qui existe aussi et qui, elle, est plutôt la tentative de fédérer ce qu'il y a de plus radical dans la jeunesse. Voilà,
Est-ce que l'idée, c'est pas que tout le monde se parle finalement ?
Oui,
c'est que Marwan Mohamed parle avec la MIF. Vous voyez, c'est.
Mais la difficulté qu'on a souvent éprouvée quand on était fonctionnaire et qu'on était en charge de ces questions. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que la Ouma n'existe pas. Vous mettez les personnes dans une même pièce, hein, si vous n'êtes pas là à un moment donné pour les calmer, vous allez avoir des personnes marocaines ou d'origine marocaine
ça part en vrille.
Qui commencent à avoir des mots avec des personnes algériennes ou d'origine algérienne, à peine arbitrés par les Turcs, etc. Et vous avez des situations qui sont tragiques.
Bien.
Donc, ils ne sont pas à l'honneur des
fidèles. Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour tout de suite, en tout cas.
En tout cas, le drame, c'est qu'il y a des gens qui croient et qui sont dignes dans leur foi et qui, malheureusement, n'ont pas les représentants qui soient à la hauteur de la dignité de leur foi.
Bien, Yacine, le quiz de, grand quiz des religions est prêt ?
Il est prêt.
Allez, je crois que l'ami Liman Abdelali est chaud, là, vous pouvez y aller.
Non, j'apprécie la finition de...
Alors, première question.
Première question. Je suis une loi qui porte le nom d'un ministre. Elle instaure, cette loi instaure un système de contrat entre l'État et les écoles privées qui le souhaitent. L'État accorde une aide, mais en contrepartie, les programmes doivent être les mêmes que dans l'enseignement public. Le catéchisme devient une option. L'inspection devient obligatoire. Vous avez une idée ?
Bien sûr, c'est la loi Debray, 1959.
Effectivement.
Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi ?
C'est le père, hein, enfin, le père Michel, de la Ve République, Michel Debray.
Parce qu'il faut rappeler quand même que ce qui est obligatoire en France, ce n'est pas l'école publique, c'est l'instruction publique. Ouais. Et que cette instruction publique, elle peut se faire à domicile, et c'est en réalité un compromis avec l'Église, au sens de l'Église catholique, dans des établissements à caractère propre, qui sont majoritairement des instituts d'obéissance catholique, enfin le caractère est catholique, et puis dans l'école publique.
Bien, deuxième question, donc c'est M. Lesky qui marque le premier point. Ah, je vois qu'il veut sa poupée Chifa, donc il est à fond sur la deuxième question.
Vas-y, c'est un homme qui est né le 1er novembre 1868, excusez-moi de ma voix, je suis un peu enroué. Je suis né le 1er novembre 1868 à Sidi Bel Abbès, dans une famille bourgeoise originaire de Tlemcen. Après des études secondaires à la Médrassa d'Alger et à l'université Al-Qaraouine de Fès, je commence ma carrière professionnelle en Algérie. Je suis à l'origine, ou j'ai participé à la fondation de la Grande Mosquée de Paris. Je suis
Ben Rabrit, Sidi Qaddour.
Effectivement,
Ben Rabrit. Bien.
Qui a, durant la Seconde Guerre mondiale...
Qui est enterré à la Mosquée de Paris.
Oui.
L'imam Abdelali remonte et refait son retard.
Tu sais que mon arrière-grand-père, qui avait le prénom Mamoun, dont mon nom de famille vient demain, est né en 1868.
Lui aussi.
Et il est né donc un siècle avant moi.
Waouh. Alors, dernière question.
Dernière ?
Ouais, dernière question, parce que ça passe vite.
Ça passe vite, mais dommage. Parmi ces propositions, laquelle n'est pas un principe de la République française ? Réponse A, laïque. Réponse B, indivisible. Réponse C, sociale. Réponse D, républicaine. Laïque.
Je suis sûr que c'est laïque.
Indivisible, sociale et républicaine.
Laïque.
Parmi ces propositions, laquelle n'est pas un principe de la République française ?
C'est-à-dire qu'il n'est pas inscrit dans la Constitution.
Laïque, c'est ça ? Je sais pas.
Laïque.
Peut-être.
Mais c'est,
c'est républicaine.
Ah mince, c'est vrai.
Non, vous m'avez troublé. Là.
Attendez, qu'est-ce qui n'est pas républicain ?
Oui, parce que c'est une tautologie.
Effectivement.
Bah oui, c'est le même mot qui est
donc
répété.
La République est laïque.
Et laïque indivisible. Sociale, indivisible.
Bah elle n'est pas républicaine parce que c'est elle-même la République. Donc c'est... Mais si, elle est républicaine quand même.
La République est laïque, sociale,
indivisible. C'est un piège.
Ouais, mais bon, là, tu nous as plus embrouillé qu'autre chose, là.
Attends, bon, de toute façon, on n'a plus le temps pour...
Bon, il a gagné, Didier, c'est voilà, bon, il a gagné.
Il a bien mérité sa poupée Chifa, parce que ça a été dur avec lui, Imam Abdelali.
Il a gagné.
On rappelle Misère de l'Islam, aux éditions du Cerf.
Il y a un petit livre aussi sur la laïcité, que vous avez écrit avec...
Avec Régis Debray, Guide pratique de la laïcité, aux éditions Folio.
Que je vous recommande.
Voilà, un petit livre, parfait.
Merci d'avoir été avec nous. Passez un bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.